Alfred Cérézol, des histoires du pays de Vaud. Un mariage renvoyé, scène vaudoise. La scène que nous allons raconter se passait en 1875, sous le toit pastoral d'une de nos villes vaudoises. C'était à l'époque où, dans l'église nationale, la mariage, dont la valeur était à la fois civile et religieuse, ne pouvait avoir lieu qu'à certains jours, à certaines heures et au son des cloches. Il fallait un service public. Et il ne pouvait être dérogé aux prescriptions réglementaires d'alors qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. En vérité, diront sans doute quelques-uns de mes lecteurs, voilà qui est pour le moins singulier. Ces prescriptions étaient en effet un peu pédantes, bizarres et très ennuyeuses, fiancés obligés de constater qu'il fallait tant d'embarras pour échanger deux oui et pour recevoir une bénédiction religieuse. Est-il en effet rien de moins agréable à l'amour que les règlements? Ceux-ci lui sont hostiles, antipathiques. Il en a toujours été ainsi depuis le commencement du monde, et il en sera de même jusqu'à la fin. À l'amour, il faut l'éloignement de tout ce qui gêne, l'oubli de tout ce qui est froid et compassé. À l'amour, il faut le grand air et la nature. À l'amour, il faut la liberté. Aussi, les fiancés de l'heure présente et ceux des siècles à venir ne sauront-ils jamais apprécier assez le privilège qui est le leur, sur terre vaudoise entre autres, d'être dégagés pour célébrer leur union de toute prescription gênante, de pouvoir se marier sans bruit et d'être sûr de trouver à toute heure l'église disposée comme une bonne mère qui sait comprendre ses fils, à ouvrir largement ses bras et son cœur aux époux qui viennent réclamer d'elle prières, conseils et bénédictions. Or donc, c'était au mois des roses, un samedi. Le clocher de l'église de X, de ses deux grandes aiguilles, marquait une heure et demie. Il faisait chaud. Le soleil de ses rayons ardents faisait vaciller l'air sur les toits. L'honorable pasteur de la paroisse, nous l'appellerons M. Prudent, se trouvait encore à table avec sa famille. Depuis midi, il venait de recevoir la longue série de ses pauvres et de ses confidents habituels, clients anciens ou nouveaux, ordinairement intéressés, parfois intéressants, qui, les uns, étaient venus demander un secours, d'autres un conseil, ceux-ci pour décharger le trop-plein de leur cœur, ceux-là le peu plein de la bourse pastorale. L'excellent plaît ce jour-là, plus là que de coutume. Silencieux, distrait, il mangeait par devoir ou par discipline, plus que par besoin ou plaisir. Il ne prêtait qu'à sa nourriture tant il avait l'esprit absorbé par toutes les choses tristes ou rarement satisfaisantes qu'il venait d'entendre, et par toutes les lettres qui sur la demande de ses visiteurs. Le pasteur n'est-il pas le grenier des pauvres? La sonnette a sonné 19 fois ce matin, dit Louison, la servante, en changeant les assiettes de la table, avec un petit air de fatigue et d'impatience. À ce moment même, la sonnette retentit de rechef avec une vigueur particulière. « Eh bien, dit le pasteur avec calme, cette fois fera bien la 20e. Vous voyez, Louison, que les ministres ne travaillent que le dimanche. »« Ah bien oui, répliqua-t-elle, qu'ils viennent seulement me le redire. Je saurai bien leur déguiller leurs mensonges. » En disant ces mots, elle alla répondre. Cette fois, ce n'était ni un pauvre, ni une dame, ni un ouvrier allemand, ni un écolier. C'était un campagnard endimanché, à la figure jeune, large et bronzée. Il avait l'œil brillant, le parler vaudois quelque peu agité. Ses cheveux noirs, éparpillés, recouvraient un front mouillé de sueur. Il portait un grand habit à pans et un haut chapeau noir. Enfin, de ses bonnes mains cachées dans de gros gants de laine, 80 centimes la paire, il tenait un parapluie bleu, largement boursouflé, serré à son milieu par une ficelle à deux tours. « Bonjour, mademoiselle. Monsieur le pasteur serait-il par hasard chez lui ?»«
Oui. » »«
Pourrait-on lui causer ?»«
Sans doute. » »«
Eh bien, dites voir à monsieur le pasteur que c'est juste un bragognon qui le demande. »« Monsieur le pasteur est à dîner. Il vous fera peut-être attendre une minute. »
« Oh, deux s'il faut,
je n'ai que trois mots à lui dire par rapport à mon mariage. » Justin, dans le cabinet pastoral. Ses robustes souliers raclent deux ou trois fois de leur clou neuf le tapis qui en recouvre le seuil. Justin s'assied, soupire et s'essuie le front. « Ma foi, se dit-il, c'est bien beau par ici, matin. » Que de livres et de portraits. Tout en tournant son chapeau des deux mains, il regarde de droite et de gauche les tableaux, la bibliothèque, tout un musée de choses vieilles et sacrées qui, pour un cœur qui aime et qui vit, s'appellent des souvenirs. En tout cas, c'est rude bien arrangé par ici. Et pour des bouquins et de la paperasse, il y en a. M'étonne bien ce que ça peut bien être que ces vieux rubans de couleur et ce petit bonnet pour traire, et râle au milieu. C'est sans doute des souvenirs de gymnaste. Et puis voilà un crucifix, voilà une boîte pour les fleurs, voilà des pipes, une gourde, une grande lunette, des cailloux, des cartes de géographie. Et de ma vie, que d'affaires et de papiers! Il faut, bien sûr, avoir une tête d'extra pour mener tout ça clair dans ce bazar. En vérité, c'est dommage que ma Fanchette ne soit pas montée avec moi pour voir tous ces bibelots. Justin n'avait pas encore tout observé, ouvrait déjà, et que M. Prudent paraissait, portant un petit bonnet noir sur la tête et croustillant encore une dernière. « Bonjour, monsieur, dit le pasteur. Qu'y a-t-il à votre service ?»«
Bien le bonjour, monsieur le ministre. Je vous prie bien excuse. Justement, je venais par rapport à mon mariage. »«
Très bien. Vous vous appelez ?»«
Oh, monsieur me connaît bien. » »«
Voyons, je ne me remets pas.
Je suis du village de X, près d'ici. »«
Vous vous nommez ?» « Justin Bragognon, monsieur le pasteur. »« Et alors ?»«
Eh bien, justement, j'arrive de chez nous où ce qu'on a fait donc publier nos annonces. Tout est en règle et il me serait bien agréable, puisque monsieur est ami avec notre pasteur, si vous vouliez bien bénage ce tantôt. »«
Comment ? Aujourd'hui ? Cet après-midi ? Mais voyons. »
« Tout d'abord, vous êtes seule.
Où est votre fiancée ?»«
Oh, je l'ai bien prise avec moi, monsieur le pasteur. »«
J'espère. » »«
Seulement voilà, je l'ai laissée en bas, à deux pas d'ici, à l'auberge d'à où ce qu'elle m'attend pour la réponse. »«
Vous auriez mieux fait de l'inviter à vous suivre. »«
Sans doute, vous savez, monsieur le pasteur, comme sont les femmes d'aujourd'hui. » »«
Ma Fanchette est tant timide. » Elle se gênait. Elle s'appelle
Fanchette Tarba. Oh, monsieur l'a bien vue des fois, fille du juge Tarba, l'ancien commis d'exercice.
Et vos papiers?
Les voilà. Tout est en règle. Mêmement que notre pasteur nous a dit qu'on n'aurait qu'à aller chez monsieur le ministre et comme lui nous marier. Tout cela serait très bien, mon ami, si vous aviez choisi un samedi et un autre moment de la journée. Vous auriez dû venir pour midi ou avant-hier jeudi pour 3 heures.
Ok, bon, voilà. C'est bien ce que j'ai dit à la Fanchette, mais elle n'a jamais voulu m'écouter.
Elle a eu bien tort.
C'est que, avant-hier, voyez-vous, monsieur le pasteur, il faisait en boucherie chez son père. Ça a pris tout le jour. Et puis ma Fanchette n'était pas tant de bonne. Elle avait attrapé le rhume, je crois. Elle roussissait d'une manière que, sauf le respect que je vous dois, ça vous remuait le cœur de l'entendre.
Tant pis.
Dieu soit loué. Après qu'on lui a donné une bonne tisane de ce bon thé, vous savez, du thé de Gramont, le mal lui a tourné depuis hier et tout semble aller du bon côté.
Mais alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas arrangé pour être ici à la cloche de midi? Nous ne pouvons pas marier les gens en cachette, comme on dit, et à toutes les heures du jour. Il y a des heures fixes.
Ah, bien voilà. Fanchette me disait toujours qu'il ne fallait pas attendre ses sonneries, mais seulement le ministre. Moi, je lui ai dit que non, qu'il fallait des cloches, des témoins, et à la chuchu, comme on dit, n'était pas de mode, ni tant convenable. Elle n'a rien voulu entendre. Vous savez, monsieur le pasteur, que les femmes sont des fois têtues, et quand elles ont une idée, il ne fait pas tant beau leur résister qu'on peut.
Cela peut arriver.
Et mêmement, quand je prétendais le contraire, elle m'a fait la mine et m'a dit « Tais-toi, phare, il faut tout vous dire, monsieur le ministre. Ma Fanchette est un peu vive, mais avec ça, elle est en bonne, d'un joli raisonnement, et puis, quelle a bonne façon. »
J'aime à espérer que vous avez tous les deux bien choisi, car dans le mariage, mon ami, dites-le-vous bien, ce sont les bons maris qui font les bonnes femmes, et ce sont les bonnes femmes qui font les bons maris. Rappelez-vous-en.
Oh, pour quitter. Mais ce n'est pas le tout, monsieur le ministre. N'y aurait-il pas des fois moyen, bien qu'à l'heure, d'arranger les affaires et de bénir notre mariage ce tantôt, s'il vous plaît?
Je ne demanderai pas mieux, mon ami.
Oh, vous seriez tant bon enfant. Puisqu'on est là tout près, vous nous feriez un petit bout de sermon, une prière, on repartirait sans tapage. Voyons voir, monsieur le pasteur, faites-nous voir ce service.
Si je n'avais ici qu'à écouter votre désir, et si je ne comprends, je vous dirais, partons tout de suite pour l'église et je monterai en chair. Mais prenez-y bien garde, pour un premier pas à faire à deux, n'allez pas le faire à gauche, ne nous brouillons pas avec la loi, et faisons attention à nos trousses, les huissiers et les tribunaux.
Pensez-vous? Pas possible!
Certainement!
Tout de même, si je ne suis pas trop curieux, j'aimerais bien savoir ce qui se dit sur ces lois faites, on dirait, pour encoubler les amoureux.
C'est bien facile. Tenez, voilà le décret du 19 mai 1869, article 29. La bénédiction nuptiale a lieu à un service public. Ce service ne peut se célébrer en dehors des jours et des heures fixés. Toutefois, le pasteur peut, dans des cas exceptionnels, célébrer le mariage en dehors des jours et des heures du service public. Dans ces cas, le service aura lieu à la cloche de midi.
Diantre, à la cloche de midi.
Article 30. Les jours où la bénédiction nuptiale ne peut avoir lieu sont le dimanche, le samedi, la veille des fêtes religieuses, la semaine entre deux dimanches de communion, la semaine sainte. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'autorisation du département de l'instruction publique et des cultes.
Ah, mon père, est-il possible?
que d'embarras et de commerce. Jamais je n'aurais cru qu'il faille tant de commerce pour marier sa bonne amie. Je veux bien parier que c'est des célibataires de par Lausanne qui ont fait cette loi. C'est la liberté à l'envers, et quant à l'amour, il n'y trouve pas son compte. Avouez, monsieur le pasteur, que ce n'est tout de même pas du bonheur d'avoir manqué sa journée et d'être venu pour rien.
Hélas, je prends bien part, mon ami, mais aussi, pourquoi n'avez-vous pas fait en sorte de partir plus tôt et d'arriver ici pour midi? J'aurais été très heureux de vous rendre le service que vous souhaitez de moi.
Eh bien, voyez-vous, monsieur le ministre, je ne crains pas de tout vous dire. Voilà ce qui est arrivé. On comptait bien être à l'église pour midi. Seulement, quand on a voulu se mettre en route, on a eu un tas d'encoubles. La Franchette, le bon sens, a voulu faire un bocon de toilette. Il a fallu s'astiffer, se mettre deux ou trois rubans, un bonnet de sorte, avec des bouquets, un voile, un joli fichu, etc. Tout ça a pris du temps. Et puis, comme mon futur beau-père est un peu peignette, et que, pour quant à moi, je n'ai que mes bras et rien de char, on est venu à pied, les deux, pour évitation des frais. Eh bien, ma foi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en route. On ne s'est rien pressé, c'est vrai, on est venu tout à la bonne. On a, comme on dit, gangané, et mis plus de temps qu'on ne pensait. Les fleurs, les oiseaux, le beau temps vous racontaient de ces affaires à n'en pas finir. Il semblait en vérité que jusque-là on n'avait rien vu et qu'on ne s'était rien dit. En bref, la main dans la main, on est arrivé à 11h30 devant le restaurant, où il se dit au rendez-vous des braves. Là, sauf le respect que je vous dois, monsieur le pasteur, on n'a fait ni un ni deux. On est entré à la pinte. On s'est assis, on a pris deux picholettes de vieux avec de la limonade, et c'est même moi qui ai tout payé. Eh bien, s'est-on arrêté là une demi-heure ou davantage? Je ne sais pas au juste. Mais je suis bien sûr que c'est de cet arrêt au rendez-vous des braves qu'est venu le grand retard et qu'on a manqué la cloche de midi. Voilà. En tout cas, pour une autre fois, il faudra partir plus à bonne heure et moins babiller par les chemins. Tout de même, voyez-vous, c'est de l'ennui de me trouver à l'affront vis-à-vis de la Franchette et de sa parenté. Que faut-il faire à présent?
Ce qu'il faut faire? Avez-vous commandé un grand dîner?
Oh là, non! On voulait tout simplement s'accorder une petite régalée chez une parente à Franchette, une tante qu'elle se tient à trois pas d'ici.
Vous n'avez pas d'amis de noces ni d'invités?
Quand je vous dis, monsieur le pasteur, que je n'ai que mes bras, on ne veut pas faire tant de fracas ni de tremblements.
Vous avez bien raison. Dans ce cas, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller expliquer les choses à votre fiancé, qui doit trouver le temps un peu long à vous attendre, d'aller voir ensuite votre tante, puis de rentrer calmement chez vous, et, si vous le voulez, de revenir lundi pour la cloche de midi.
Voyons, n'y aurait-il pas moyen de revenir demain?
Non, demain c'est dimanche.
Encore? Ça fait donc qu'il ne reste rien à faire qu'à se retourner pour aujourd'hui. Pauvre Franchette, elle ne sera pas tant contente au moins. M'étonne ce qu'elle va dire. Enfin, voilà, tout est dit. Il ne reste qu'à repartir.
Allons, à lundi donc.
Eh bien, à lundi. J'ai bien du chagrin d'avoir ennuyé monsieur le pasteur.
Eh, mon ami, si les chagrins sont pour vous, les regrets sont pour moi.
Enfin, voilà, que voulez-vous faire? Faudra prendre patience et aller se rechanger.
Au revoir, monsieur Bragognon.
À l'honneur, monsieur le ministre, en bien vous remerciant.
La porte s'est refermée. En redescendant l'escalier, le pauvre Justin, tout en caressant de l'avant-bras les poils plus ou moins hérissés de son grand chapeau noir, prononce avec intermède de soupirs des paroles tristes et entrecoupées.
Te voilà jolie. En tout cas, respect pour le ministre, mais rave pour la loi, coquin de sort.
Je suis bien refait à présent. C'est du propre. Tu vas faire un joli corps dans ces rues de ville avec ton bugne des dimanches.
J'aimerais mieux aller me cacher dans ma grange que de me montrer par là. Et puis, il fera beau rentrer au village. Faudra la nuit. Au diable l'appareil. En voilà-en une à laquelle je ne m'attendais pas et dont je veux me souvenir.
Pauvre Fanchette. Pauvre chérie.
Il n'y a pas à dire. Il faudra qu'elle revienne lundi.
Ah, coquine de Picholette! Pourtant, sans ce rendez-vous des braves, on était mariés pour de bon.
En vérité, pour du guignon, c'est du guignon. Et que c'est de ma faute encore.
Marie de rencontre, va.
Le lundi suivant, Justin et Fanchette furent au rendez-vous du pasteur. Le mariage fut béni à l'heure convenue. La cérémonie fut très simple. Elle se célébra devant deux témoins, un gendarme de belle taille et un marguillier intelligent. Les deux époux, avec la sincérité la plus parfaite, se promirent réciproquement de s'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Jusqu'ici, ils ont bien tenu parole et leur passé est un gage de l'avenir. Ils sont heureux dans leur simple labeur. Entre la vigne, le plantage et les champs, la besogne ne manque pas. Trois enfants, beaux garçons au teint robuste, sont venus compléter le calme bonheur de ce foyer campagnard. Fanchette règne et ne gouverne pas. Elle ne se lasse pas de redire que Justin est un puissant travailleur, que pour un mari, elle a un bon mari, et que son voile de noces n'a pas été, comme pour d'autres, un voile d'illusion. Justin est un bûcheur, économe et rangé. Il boit bien son verre quand la besogne a été dure, mais quant à s'attabler dans les pintes et surtout garder au retour du marché, au rendez-vous des braves, il n'en est pas question. Depuis son mariage, il ne faut même plus lui parler de ce cabaret du diable. Il lui a joué un trop mauvais tour. De temps à autre, M. Prudent vient leur faire visite. C'est alors une fête. Il est rare qu'à cette occasion, Justin ne rappelle pas quelque chose des souvenirs que nous venons de raconter et qu'il ne répète pas en guise de morale à l'adresse de ses enfants.
En tout cas, mes petits, rappelez-vous bien que ce n'est pas le tout que de partir à temps. Il faut arriver à l'heure. Souvenez-vous-en.